Vous écoutez le studio Kalangou, il est 17h à Niamey, le journal dans un instant. À Diffa, des journalistes ont été formés sur les risques liés aux engins explosifs dans les zones abandonnées. L'objectif est de sensibiliser la population sur les dangers que présentent ces engins à travers les médias. Plus de 100 cas de malades atteints par le gastro-entérite ont été enregistrés dans la région de Tawa, dont 6 décès. La situation est actuellement sous contrôle, nous dira le directeur régional de la santé publique dans ce journal. La partie magazine de cette édition s'intéresse à l'importance du don du sang. Voilà pour le sommaire, au micro Assoumana China. Bienvenue à tous. Fin hier à Diffa d'une formation des journalistes sur les risques liés aux engins explosifs dans les zones abandonnées pour des raisons de conflit. L'objectif est de former ces journalistes afin qu'ils sensibilisent à leur tour la population sur les risques qui constituent ces engins. Une initiative de l'ONG ID Vert. Madame Adamou Rekia, qui a participé à la formation, explique au micro de Abdoulaye Maina.
Nous avons été formés sur les types d'explosifs existants. Il y a les mines, les bombes, les roquettes et autres qui peuvent exploser avec une personne. Ces explosifs, on peut les considérer comme des aveugles. Ils ne voient ni enfant, ni adulte, ni savoir que celui-ci est un civil ou militaire. Tout celui qui est confronté à eux sera blessé. Et on nous a appris des méthodes pour faire attention à ces explosifs, car ce sont des personnes qui auraient miné l'endroit en quittant leur base. Quand on marche dessus, ça risque d'exploser. Il y a des explosifs destinés à une voiture, mais quelqu'un peut marcher dessus et ça peut lui coûter la vie. Et même si c'était destiné à un être humain, ça peut faire exploser une voiture. On nous a expliqué qu'une fois de retour à la maison, on devrait sensibiliser nos proches sur ce sujet important. Les autres structures doivent faire comme celle-là pour faire perdurer la paix qu'on cherche désespérément.
Centre 13 cas, dont 6 décès, c'est le bilan de la maladie gastro-entérite apparue depuis le 5 septembre dans la région d'Ottawa. Plusieurs départements sont touchés par cette maladie qui se caractérise par des diarrhées et vomissements, selon le directeur régional de la santé publique d'Ottawa, Dr Abdelmoumouni Abdoulaye. Il affirme que la situation est présentement sous contrôle au micro de Mohamed Maman.
Cette situation de gastro-entérite a malheureusement été déclarée depuis la date du 5 au niveau de Carofan et au niveau de Gidendambaki et le 7 au niveau de Koni. Donc hier en fin de journée, on était à 113 cas. Sûrement aujourd'hui, dans cette journée, ils ont augmenté parce qu'on a eu des admissions au niveau des cas. Dès le premier jour de la maladie, en tout cas, on a su, il y a eu au moins 5 décès. Vous savez, ce type de maladie, le plus souvent, au début, temps de diagnostiquer, souvent les gens sont dans les foyers, ils ont fait leur déshydratation, le temps qu'on détecte de quoi il s'agit, il y a des morts. Depuis les 5 premiers morts, il n'y en a plus eu des que hier, je pense, à Bouza, il y avait une personne âgée qui avait contracté la maladie et qui était décédée. Donc, ce qui cause la maladie de gastro-entérite, en réalité, c'est d'abord la saleté, en un mot. Parce que tant que l'environnement est insalubre, forcément, en cette période de pluie, on risque d'avoir ces maladies de gastro-entérite. C'est un peu ça la vraie raison.
Cette année, au cours des deux premiers trimestres, près de 2000 cas d'enfants en situation de malnutrition ont été enregistrés dans le district sanitaire de Gaya. Dans les centres de santé du département, une attention particulière est accordée aux enfants atteints de malnutrition. Madame Issifou Nana Aïchatou, nutritionniste à l'hôpital du district sanitaire de Gaya, explique au micro de Fadial Alou.
Du premier semestre de l'année 2024, c'est-à-dire de janvier à juin, 972 cas des enfants qui sont atteints de malnutrition et du modéré. Pour le deuxième trimestre, avril, mai, juin, nous avons enregistré 208 cas des enfants qui sont atteints de malnutrition aiguë sévère avec complications. Aussi, 948 cas de malnutrition aiguë sévère sans complications.
Et ça peut aussi conduire au décès. La prise en charge des enfants malnutris se fait dans les centres de santé avec le plompinat pour les enfants qui sont sévèrement malnutris et le supplémentaire plompi ou le CSB pour les cas de malnutrition modérée. Ça se fait en tout cas au niveau des centres de santé. Donc à la maison, les mamans peuvent poursuivre la prise en charge avec les bouillies enrichies, des purées de légumes, des purées de haricots qu'on trouve sur le marché.
En cette période pluvieuse au Niger, on constate la disponibilité de quelques céréales, notamment le maïs sur le marché et en vente sur les artères de la capitale. C'est un aliment qui est beaucoup consommé au Niger, mais certaines personnes affirment que la consommation du maïs grillé déclenche le paludisme. Pour en savoir plus, écoutons Dr Habou Abdourahman, médecin au district sanitaire Niamey 3. Il est au micro de Rafia Abdoulaye Mossi.
Le paludisme, c'est une maladie qui est parasitaire. Elle est transmise par le moustique. Donc, la consommation du maïs et la survenue du paludisme sont des choses qui sont différentes, qui, scientifiquement, n'ont pas de lien. Ce qu'il faut juste noter, c'est que cette situation pourrait être la résultante d'une coïncidence. Et qui dit saison de pluie ici au Niger dit paludisme. Donc, certainement que les individus qui ont constaté ce genre de coïncidence auraient déjà été infestés par le paludisme. La consommation du maïs n'est en rien donc, un élément déclencheur donc, du paludisme. Ça, je voulais vraiment rassurer donc, tous ceux qui ont ce genre d'appréhension que la consommation du maïs n'a pas de lien avec la survenue du paludisme chez l'être humain.
Parle toujours santé, suite à la réduction des frais des prestations sanitaires de 50% par l'État du Niger, la fréquentation des centres de santé au niveau du département de Tessawa s'est améliorée, selon Dr Lawali Arzika, médecin-chef au district sanitaire de Tessawa. Il est au micro de Moussa Saleh.
Premièrement, c'est un soulagement pour la population, pour nous aussi en tant que personnel de santé. C'est une bonne chose. Nous sommes conscients qu'il y avait des patients qui restaient à la maison par manque de moyens. Pour eux, il faut de l'argent pour se faire consulter. Mais depuis la mise en application de cette décision, nous avons constaté un engouement des patients vers les centres de santé. Auparavant, les gens ne venaient pas à cause de la chèreté des frais de soins. Quand on prend l'exemple de faire une radio, avant il faut payer 5 000 francs CFA. Mais maintenant, c'est presque à 2 000 francs CFA.
Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno au Nigeria, est submergée depuis 48 heures. D'après Dr Abdul Moutalib Aboubakar, professeur à l'université de Maïdougouri, entre 70 et 80% de la ville est affectée par ces inondations. Plusieurs facteurs en sont responsables, notamment la rupture d'un barrage situé à 20 km de la ville. Il exprime au micro de Fanta Chamsou.
On peut dire 70 à 80% de la ville de Maïdougouri est submergée par les eaux. La plus grande inquiétude est la prolifération des maladies. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui ont entraîné cette inondation. Premièrement, nous sommes dans la saison des pluies. C'est dans cette période que les barrages et les sites de retenue d'eau débordent. Et il y a une voie d'un cours d'eau qui traverse le centre de Maïdougouri. À part cela, il y a un barrage vers la rentrée, à peu près 10 à 20 km à l'intérieur du chef-lieu de la capitale. Ce barrage reçoit des eaux des rivières dont leurs ressources sont au Cameroun. Et les pluies enregistrées dans les départements de Taraba et de Adamawa se déversent dans ce barrage appelé à lowdown. Et c'est le trop-plein qui se déverse sur sa route.
Depuis quelques jours, plusieurs villages et certains quartiers de la commune de Ngingimi sont confrontés à un problème d'approvisionnement en eau potable. Une situation très préoccupante pour la population, d'où les cris de cœur de ces femmes rencontrées par notre correspondant Abdoulaye Mena.
Franchement, nous rencontrons un sérieux problème d'eau au niveau de notre quartier. Nous partons à la recherche de cette darrêtre tous les matins. Si par malchance, il n'y a pas de soleil, ce jour-là, c'est compliqué. On ne peut pas trouver l'eau. C'est l'eau du forage que nous consommons. Nous payons les bidons à 250 francs. Il faut se lever à l'aube pour faire la queue et attendre jusqu'au lever du soleil, car c'est un forage solaire. Vu la demande, il nous faut 2 ou 3 forages de plus dans notre quartier Sabon.
Le bidon peut se vendre jusqu'à 5 naira et ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de l'acheter. Et même les forages disponibles dans le quartier, quand il n'y a pas d'électricité, tout le monde n'a pas de groupe pour pouvoir l'utiliser. Vraiment, nous souffrons. Parfois, avoir de l'eau, c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi nous utilisons l'eau des puits dont nous ne sommes même pas sûrs de la propriété.
En cette période de saison hivernale, les routes sont en mauvais état dans le département de Baleyara, à l'image de la quasi-totalité des localités du pays, ce qui n'est pas sans conséquence pour le déplacement des personnes et leurs biens. Abdou Issaka, transporteur voyageur à Baleyara, nous explique les différentes difficultés qu'il rencontre au micro de Zainabou Abdou.
Nous transportons les populations vers les marchés hebdomadaires de Wankama, de Yeda, de Hamdallaï, de Kenya et de Boukou. Mais vraiment, nous rencontrons des difficultés sur tous les tronçons à cause du mauvais état des routes. Sur la route de Kenya, par exemple, un peu devant Fondouma Yachi, les voyageurs sont obligés de traverser le Kouri à pied pour reprendre le même véhicule de l'autre côté, parce qu'il y a trop d'eau. À Fondouma Yachi, idem. La traversée se fait même en pirogue. Et après Hataloga, on voyage de l'eau jusqu'à Kenya. Vers Yeda, de Sendira à Tondichire et Zongo, nous sommes dans l'eau. Il y a des véhicules qui s'embourbent même et font plusieurs jours sous la pluie avant d'être dépannés. Mais nous nous arrangeons pour faire partir nos voyageurs avec nos collègues le plus tôt possible.
Plus de 300 maisons des 11 quartiers de la vieille ville d'Agadez sont menacées d'effondrement dans les monuments portant l'identité culturelle de la ville. Suite aux fortes précipitations enregistrées entre août et septembre 2024 dans la commune urbaine d'Agadez, le conservateur de la vieille ville d'Agadez, Ali Salifou, lance un cri de cœur aux autorités pour que l'UNESCO vienne en aide aux sinistrés. Il est au micro de Moussa Maman.
Presque toutes les maisons au niveau des 11 quartiers ou même les grands monuments historiques sont construits en terre crue. Et c'est là, eu égard à la pluie, que surtout les fortes pluies qui sont tombées, plus de 300 maisons et murs sont tombés au niveau de la vieille ville d'Agadez. Le changement climatique est une réalité, surtout pour le patrimoine culturel, parce que nous avons un patrimoine culturel très riche. Des maisons, des monuments qui portent l'histoire, l'identité même culturelle de la région ou du Niger sont en train donc d'être menacées. C'est pourquoi donc nous pensons que c'est le moment de mettre en place vraiment un programme d'urgence, parce que dès que nous avons constaté cela, nous avons informé le niveau central afin que l'UNESCO, surtout le centre du patrimoine qui a en charge donc la gestion des sites qui sont patrimoine mondial, afin qu'on puisse venir en aide de façon urgente à ces populations-là qui sont sinistrées.
La présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Madame Brareki Jermakwai, et l'administrateur délégué de la ville de Niamey, colonel Boubacar Soumana Garanke, ont présidé hier mardi 10 septembre à l'hôtel de ville de Niamey une rencontre d'information sur la participation des syndicats de taxis et de tricycles à l'effort de sauvegarde de la patrie. À cette occasion, la présidente du FSSP a rappelé l'ordonnance instituant un prélèvement mensuel de 500 francs par mois par taxi et de 200 francs par mois par tricycle, en précisant que ce sont les administrateurs délégués et les responsables des collectivités qui sont chargés de ces prélèvements dans toutes les 8 régions du Niger. Place à présent à la partie magazine de ce journal. Donner son sang, c'est sauver des vies qui sont en manque. C'est pourquoi il est nécessaire pour tout citoyen bien portant de faire ce geste noble. Monsieur Ajidem Bagni Bédou, responsable du centre régional de transfusion sanguine de Niamey, nous donne plus de détails sur le don de sang au micro de Hassan Nourou Abdraman.
Quelles sont les personnes habilitées à donner du sang?
Les personnes qui sont âgées de 18 à 65 ans et les personnes qui sont en bonne santé, pesant au moins 50 kg. Les femmes enceintes, les femmes qui sont en période de menstruation, les femmes allaitantes moins de 6 mois ne peuvent pas aussi donner du sang. Après ce don de sang, pour le donneur lui-même, il y a une collation qui lui est offerte, et juste pour remonter un peu sa glycémie, aussi pour attendre de voir s'il ne fait pas des malaises après don. Après, on donne un rendez-vous à la personne d'une semaine pour revenir chercher ses résultats, pour lui donner un notre rendez-vous pour venir faire son prochain don de sang.
Quels sont les examens du sang qui sont effectués?
On fait les examens immunohématologiques et les examens sérologiques, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis et le VIH-Sida.
À quelle fréquence peut-on donner du sang?
Ce don de sang, pour les hommes, c'est chaque 3 mois. Pour les femmes, c'est chaque 4 mois.
Pour chaque personne, vous prélevez quel volume?
Si une personne a de 50 kg jusqu'à 65, nous, on ne prend que 250 ml. De 65 à au-delà, nous prenons 450 ml. 450 ml dans 8 litres de sang qu'un homme peut avoir en moyenne.
Quels sont les bienfaits du don de sang?
Les bienfaits du don de sang, il y en a beaucoup. Plus on donne du sang, et plus l'organisme renouvelle les cellules, et plus on est en bonne santé. J'ai donné mon sang, j'ai sauvé des vies, donc je me sens utile à la société.
Comment faire pour avoir la carte de donneur?
Pour avoir la carte, maintenant c'est deux dons. Il faut venir récupérer les résultats et en plus vous faire la carte. Chez nous, nous n'achetons pas le sang, nous ne vendons pas le sang. Les gens viennent donner gratuitement, nous le donnons gratuitement. On est ouvert 7 jours sur 7. 24h sur 24.
Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi.
Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store.